Mathieu Tamani, voici nos informations en français.
Vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici le sommaire de ce journal. La suspension des autorisations de transit des produits pétroliers du Niger vers le Mali provoque des réactions dans le pays. Toutefois, à Gao, Menaka et Ansongo, la décision n'a pas encore d'impact sur les activités des habitants. Quelles peuvent être les conséquences de la sortie définitive du Mali de la force conjointe antiterroriste du G5 Sahel? Pour des diplomates, ce retrait pourrait davantage isoler le Mali. Les préparatifs pour la rentrée scolaire 2022-2023 se poursuivent. Cette année, à Ségou, les parents d'élèves déplorent la cherté des fournitures scolaires dans la ville. Point complet de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté. Mamadou Ouattara est à la technique. Le Niger suspend ses autorisations de transit des produits pétroliers vers le Mali pour des raisons sécuritaires. Cette décision prise le 21 septembre dernier n'a été rendue publique que ce lundi 26 septembre 2022. Elle a suscité au Mali diverses réactions, mais les autorités nigériennes rassurent que cette mesure est antérieure et n'a aucun lien avec le discours prononcé par le premier ministre par intérim du Mali contre le président nigérien à la tribune de l'ONU. Pourtant, au nord, dans les localités frontalières avec le Niger, cette suspension n'a eu aucun impact sur la population. Moussa Malé Sissoko.
La délivrance des autorisations de transit des produits pétroliers vers le Mali a été suspendue depuis le 21 septembre 2022. Mais les autorités nigériennes précisent que les livraisons d'hydrocarbures destinées à la MINUSMA seront escortées jusqu'à la frontière du Mali. Cette annonce a suscité des vives polémiques sur les réseaux sociaux. Le ministre nigérien des Finances, Ahmad Jidoud, explique que cette décision fait suite au constat des pratiques frauduleuses de reversement de ces produits exonérés des taxes et des droits de douane sur le territoire du Niger. Ahmad Jidoud.
La SONIDEP m'avait convaincu de l'existence de cette fraude et c'est sur cette base-là que j'ai suspendu le 9 septembre. Mais à la suite de cette décision, j'ai demandé au directeur général des douanes de prendre une note pour notifier cette décision aux unités douanières qui sont au niveau des frontières. C'est le 21 septembre que le directeur général de la douane a pris la circulaire sur la base des mesures suspensives que j'ai prises le 9 septembre. Il y a une coïncidence hasardeuse du calendrier que certains ont essayé d'interpréter comme étant une sorte de mesure de représailles à l'endroit du peuple frère malien.
Contrairement aux rumeurs sur les réseaux sociaux, cette mesure nigérienne n'a eu aucun impact sur la fourniture des produits pétroliers dans les régions du Nord. À Gao, Menaka et Ansongo, aucune rupture ou hausse des prix du carburant ne sont constatées dans ces localités. Ousmane Maïga, président de la jeunesse communale d'Ansongo.
Pas plus tard qu'hier soir, moi j'ai acheté du carburant au prix habituel 600 francs. Contrairement aux semaines précédentes où on avait l'habitude d'acheter le carburant à 1000 francs, un sentiment de ici. Pour le moment, la vie tourne, tout est bon.
Selon une source proche de l'Office national des produits pétroliers, ONAP, la quantité du carburant qui provient du Niger vers le Mali n'est pas conséquente. Elle rassure que des dispositions seront prises pour mieux approvisionner le pays en hydrocarbures.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte Twitter. La mission de haut niveau de la CEDEAO arrive ce jeudi 29 septembre 2022. Cette information est confirmée dans un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères. Selon le communiqué, cette mission est composée de 3 chefs d'État. Il s'agit des présidents togolais, ghanéens et gambiens. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Le retrait du Mali de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, est définitif. L'information a été annoncé par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'était lors d'une interview accordée à La Voix de l'Amérique lundi dernier. Cette décision est motivée par l'opposition de certains États du G5 Sahel à accepter la présidence du Mali. Quelles peuvent être les conséquences de cette sortie du Mali de la force conjointe antiterroriste? La réponse dans ce reportage de Imirana Kilomaiga.
Pour Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, le Mali a tourné définitivement la page du G5 Sahel et ne compte plus revenir. Pourtant, le diplomate explique que les autorités maliennes restent ouvertes à tous les mécanismes de sécurité collective avec les pays voisins. Mais l'adhésion du Mali à ce mécanisme africain est conditionnée à certaines exigences.
Nous ne pouvons pas appartenir à une organisation si elle n'est pas véritablement africaine. Si son leadership n'est pas véritablement africain, nous ne pouvons pas être dans une organisation où le leadership est exercé par des autorités. autorités françaises qui ne sont pas membres de cette organisation et qui sont dans une posture d'hostilité et de déstabilisation du Mali. Pour toutes ces raisons, le Mali ne considère pas revenir dans le G5 Sahel.
Toutefois, des spécialistes des questions sécuritaires soulignent que cette sortie du Mali du G5 Sahel pourrait être profitable aux groupes terroristes de la zone des trois frontières. Ce retrait définitif pourrait davantage isoler le Mali, regrette Ibrahim Soumaré, ancien ambassadeur et analyste en diplomatie et en stratégie.
Ça peut être un couloir destructeur pour les groupes armés terroristes vont en profiter pour pouvoir non seulement se réorganiser. Le deuxième aspect, ça peut également donner l'impression que le Mali s'isole par rapport à la stratégie qui consiste à mutualiser les efforts en commun pour pouvoir venir à bout de ces groupes armés terroristes.
Notons que le gouvernement du Mali avait expliqué ce retrait par une perte d'autonomie de décision, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, le Mali ne peut pas être le dindon de la farce d'une organisation où il n'est pas respecté.
Je vous l'annonçais dans le titre, à quelques jours de la rentrée des classes prévue le 3 octobre, les parents d'élèves s'activent pour l'achat des fournitures scolaires à Ségou, mais ils trouvent les coûts élevés. Les commerçants imputent cette surcherté à la conjoncture économique du moment. Un reportage de notre envoyé spécial à Ségou, ici à Kakoulibaly.
Les fournitures scolaires sont vendues un peu partout dans la ville de Ségou. On peut en trouver dans les librairies et au marché. Toutefois, les prix sont chers et regrettent des parents d'élèves.
Les fournitures coûtent cher. J'ai mes petits-enfants là auxquels je dois payer les cahiers, les livres. Ah, j'ai fait un crochet là-bas, tout coûte cher.
Je suis déplacée du nord de Kidal. Tout est cher. Je suis veuve, j'ai 5 enfants. C'est un peu difficile de payer leurs cahiers, les sacs, les crayons, les compas.
Mais des commerçants estiment que tous les prix ne sont pas élevés. Écoutons leur explication.
Les fournitures qu'ils ont chères, d'autres restent à l'ancien prix. Ceux qu'ils ont augmenté, c'est les cahiers de 100 pailles, les cahiers de 200 pailles, les 50 pailles, il n'y a pas de changement. Les restes là, le prix c'est abordable. Que faire nous? On paye à cher, donc on va cher.
Cette année, nous avons l'inquiétude même à la mévente.
Pour une réduction des prix de ces fournitures scolaires, parents d'élèves et commerçants demandent une meilleure implication des autorités du pays. Issiaka Koulibaly de Ségou pour Studio Tamani.
Autre sujet, les pluies diluviennes ont fait de nombreux dégâts durant ces deux derniers mois à travers le pays. Les zones touchées récemment sont les localités de Djéné et Bafoulabé. Des maisons écroulées, des greniers et des bétails emportés sont entre autres les dégâts enregistrés. Les détails avec Lalecha Walet Infa.
Plusieurs maisons en Bankou se sont effondrées la semaine dernière suite à des pluies diluviennes à Tomora, Oussoubidjania et à Zoroma dans le cercle de Bafoulabé. Dans d'autres localités du cercle comme la commune rurale de Bafi, des maisons se sont écroulées mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, précisent les habitants.
Vraiment, la pluie a fait beaucoup de dégâts dans la commune de Tomora et surtout dans la ville de Oussoubidjania. J'ai perdu 2 chambres, mon sang. Il y a assez de dégâts aussi. En ville, assez de dégâts. Il y a eu même des blessés à cause des chambres tombées là.
Dans notre commune, presque 60% sont à l'abri des ordonnées. Des cases rondes, des pièces en mango, en tôle, ont été tombées.
Dans la région de Mopti, le président de la jeunesse du cercle de Djéné, Yehia Saro, affirme que le village de Sine continue d'être submergé par les eaux de pluie. Le village n'est accessible que par pirogue.
La population, depuis 2 ans maintenant, ils sont au bord du goudron. Le développement social et aussi la protection civile, en partenariat avec la mairie, voilà, ils ont quand même pu installer quelques tentes, mais ça n'a pas suffi, pas de l'eau potable. Cette population a vraiment besoin de l'aide. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont réussi qu'une aide alimentaire de qui que ce soit.
Notons qu'à Sine, certaines familles sont toujours au bord de la route, sans toit, ni eau, ni nourriture. Elles lancent un cri de cœur aux bonnes volontés et aux autorités, affirment les sources locales.
Un mot de sport, basketball, l'internationale malienne Touti Gadega a annoncé hier sur son compte Twitter la fin de sa carrière internationale avec les Aigles d'Âme. La meneuse des Aigles d'Âme n'a pas donné de détails sur les raisons de sa retraite internationale. Rappelons que Touti Gadega a été 2 fois médaillée de bronze avec le Mali, c'était en 2017 et 2019.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, un mort et un porté disparu, c'est le bilan d'une attaque perpétrée le 26 septembre dernier contre le village d'Anakanga dans la commune de Dougoutenel, cercle de Koro. Cette attaque, selon des témoignages recueillis sur place, serait l'œuvre des présumés djihadistes. Les mêmes sources rapportent que l'insécurité des attaques récurrentes se multiplie dans la zone ces derniers temps. Les troupeaux des vaches du village de Bara, cercle d'Ansongo, ont été enlevés hier par des hommes armés. Mais non identifiés. Des témoins indiquent que ce sont des vaches laitières enlevées par 6 hommes à moto. Les mêmes sources rapportent que les forces de sécurité ont été informées, mais elles n'ont engagé pour le moment aucune poursuite pour les retrouver. Un jeune maraîcher de Kaya a bénéficié hier mardi d'un groupe électrogène, des engrais organiques et des semences. Le geste est du mouvement Ambico. L'objectif, selon les responsables du mouvement, est de soutenir les initiatives des jeunes et surtout pour qu'ils puissent inspirer d'autres jeunes de la région. Le bénéficiaire a promis de préserver et d'utiliser ce don à bon escient. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter toutes ces informations sur nos sites web au www.zutamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Reste à notre écoute dans un instant le magazine. L'accès à l'information fait partie des nombreux défis auxquels les journalistes maliens sont confrontés. C'est dans ce contexte qu'est célébrée ce 28 septembre la Journée internationale de l'accès universel à l'information. De Bamako à Ségou, en passant par Bafoulabé et Bankas, si les hommes de médias affirment rencontrer des difficultés dans la collecte de l'information, les citoyens, quant à eux, demandent plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Le point avec Amsetou Touré.
Pour ces citoyens, les journalistes doivent s'appliquer davantage dans leur travail et éviter les courses aux scoops, surtout en cette période difficile pour le pays.
Dans certaines informations, ils mentent. Et si tu racontes ces informations quelque part, c'est comme si tu avais menti. Et cela peut causer la honte.
Si tu te bases sur toutes les informations qu'on donne, la plupart de ces informations sont fausses. Pour connaître une information, il faut aller jusqu'à la source, car ce sont les citoyens qui écoutent les journalistes. Il se peut que cette information donnée peut inciter la population à se retourner contre les pays. La situation dans laquelle nous vivons, nous avons besoin d'informations fiables.
Soit à la télé, sur les réseaux sociaux ou à la radio, en donnant l'information, il est important qu'ils donnent des informations réelles pour que tout le monde puisse comprendre.
L'insécurité, l'accès aux autorités nationales et locales sont entre autres difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes. À cela s'ajoute la méfiance des autorités vis-à-vis des hommes de médias.
L'accès à l'information, de façon globale, ça va ici. Il y a deux difficultés majeures. La première, c'est la connexion concernant les médias en ligne. La deuxième difficulté, c'est le programme des organes de presse, notamment des radios. Vous verrez peut-être qu'il y a des radios, l'information, c'est une fois par jour.
À Bankas, nous fournissons beaucoup d'efforts pour avoir les informations. Avec l'inscrité là, les gens ont vraiment peur. Quand vous donnez l'information et que vous donnez le nom, ça risquera en tout cas de compromettre la personne.
Parfois, quand on essaye de rentrer en contact avec les autorités pour recueillir des informations, elles ne sont pas disponibles. Au-delà de la disponibilité, il y a aussi la responsabilité. Parce que la plupart des services qui sont basés ici à Bafoulabé sont rattachés vraiment aux directions régionales. Donc il faut une autorisation souvent.
Je suis journaliste à Bamako, au Mali quand même. La liberté de la presse est un peu bafouillée. C'est toujours censuré. Les autorités se méfient chaque fois des hommes des médias.
À rappeler que cela fait 2 ans jour pour jour que le journaliste Hamadou Nialibouli, correspondant de Studio Tamani à Douanza, a été enlevé entre Bamako et Sévaré. Comme lui, Hamadou Ndiko et Olivier Dubois sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs.